with Latino voters in some of the states as we later on tonight.
Yeah, today is Super Tuesday, so today is going to be a deciding factor in determining who's going to be the Democratic nominee, as well as lots of local bond measures and things like that.
San Francisco, Californie, on est mardi et c'est le Super Tuesday. Nous sommes chez Manny's, c'est à la fois un bar à San Francisco et un espace de discussion, on y parle beaucoup politique et là ce soir évidemment il y a beaucoup de monde, les télévisions sont allumées, chacun scrute les résultats dans les 14 états qui votent actuellement et j'en profite pour croiser Grégory Phillips, salut.
Salut Raphaël. Ouais, la Californie, c'est très important, évidemment, parce que tu sais que ce sont des délégués qui vont désigner le candidat ou la candidate qui affrontera Trump. Ce sera pendant la convention de juillet à Milwaukee. Et la Californie, c'est le plus gros pourvoyeur de délégués. Il y en a 415 à gagner. Donc évidemment, tout le monde est très attentif aux résultats ici ce soir. Et celui qui l'emportera en Californie ne sera pas forcément désigné candidat, mais en tout cas, il prendra une sacrée longueur d'avance.
Alors moi, je me suis un peu baladé et les gens me disent qu'ils ont surtout voté pour Elizabeth Warren et Bernie Sanders. Alors effectivement, c'est assez jeune comme public ici. Il n'y a pas beaucoup de soutien de Biden, mais on verra ça dans les prochaines heures.
Who is your candidate? I am supporting Elizabeth Warren.
Sanders. Elizabeth Warren.
Un mardi pas comme les autres. C'est l'épisode 10 de Washington DC. Bienvenue.
Today is Super Tuesday in the United States.
They want to destroy you and they want to destroy our country.
Our politics has become so mean, so petty, so negative, so partisan, so angry, and so unproductive.
Washington, D.C.
This is not an ordinary election.
Allô, le Canada à Washington.
Raphaël, ce matin?
Ouais, salut Raphaël, je t'entends bien.
C'est bon, la connexion est bonne?
Et moi, est-ce que tu m'entends? Salut, c'est Greg.
Salut Grégory, est-ce que tu vas parler un peu plus fort?
Je peux parler un peu plus fort.
Grégory parle toujours.
D'habitude,
c'est un problème, non?
Habituellement, il parle plus fort.
1-2-1-2.
Il s'est donc passé quelque chose lors de ce super mardi et on va en parler avec l'équipe des correspondants des radios francophones publiques. On est dans une configuration un peu spéciale. On est répartis entre la côte est et la côte ouest des États-Unis. À Washington, dans la capitale américaine, il y a
Anne Corpet, RFI.
Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada.
Sonia Dridi, RTBF.
Alors, vous êtes installé dans les studios de Radio-Canada. Ils s'occupent bien de vous, ils vous ont amené du café.
Oui, oui, on en a bien besoin ce matin, faut dire.
Et à 4500 km de distance, on est un peu plus à l'ouest, ici avec
Grégory Phillips de France Info.
Et Raphaël Grand de la Radio-Télévision Suisse. San Francisco, on ne veut pas vous faire envie, mais on s'est mis juste au bord de l'océan. Je ne sais pas si vous entendez les vagues.
Non, pas du tout.
Alors devant nous il y a le Golden Gate Bridge, vous savez le fameux pont rouge de San Francisco et Grégory là, juste là c'est la prison d'Alcatraz.
La prison d'Alcatraz qui est juste en face avec un océan très calme et très bleu ce matin. Anecdote, tu sais qu'il y a à peu près 1500 détenus qui ont été prisonniers à Alcatraz sur les 30 années où elle existait. Il n'y en a que 3 qui ont réussi à s'évader de ce pénitencier. Mais on ne sait pas s'ils sont allés jusqu'au bout et s'ils ne sont pas morts noyés quelque part dans l'océan Pacifique.
C'était effectivement l'idée de mettre cette prison sur une île. Le Super Tuesday, le Super Mardi. Alors, on n'a pas encore tous les résultats définitifs à l'heure où on enregistre cet épisode. On est mercredi, il est 10h du matin sur la côte ouest. La Californie compte encore ses bulletins, mais ce Super Mardi nous a réservé une surprise. Joe Biden n'est pas mort, il revient en force dans la campagne, Anne.
Oui, c'est un spectaculaire retournement de situation. Ah, rappelez-vous, il y a 2 semaines, les médias américains le donnaient pour mort, mais Uncle Joe a fait son incroyable comeback. Je ne sais pas si vous avez vu, d'ailleurs, il y a cette photo à la une du New York Post où on voit une main sortir de terre et le titre « Il est vivant », ça parle. Donc, il a réussi à emporter tous les États du Sud qui votaient, portés par le vote afro-américain notamment, mais aussi le Minnesota dans le Midwest, et puis le Massachusetts qu'il a ravi à la sénatrice Elizabeth Warren et surtout bien sûr le Texas a un gros morceau avec ses 228 délégués.
Ouais, le Texas, on va en reparler. Pour Biden en fait tout s'est joué quelques heures avant les votes du Super Tuesday, hein.
Oui, et ça va rester un tournant dans cette campagne. C'est le moment où tout a basculé lorsque Joe Biden a reçu le soutien d'ex-candidats dits modérés. En fait, à la veille du Super Tuesday, Pete Buttigieg a abandonné sa course à l'investiture et il a apporté son soutien à Joe Biden.
Rallying the country together to defeat Donald Trump, and that was always a goal that was much bigger than me becoming president. And it is in the name of that very same goal that I'm delighted to endorse and support Joe Biden for president.
Alors, il dit notamment que l'important, c'était de battre Donald Trump. Il a aussi dit que Biden était quelqu'un d'une grande bonté. Et un peu plus tôt, c'est Amy Klobuchar qui avait annoncé mettre fin à sa campagne.
Today, I am ending my campaign and endorsing Joe Biden for president.
Et dès le soir même, eh bien, elle s'est exprimée au rallye de campagne de Joe Biden à Dallas. Et on sait que Biden a remporté le Minnesota grâce à elle. Enfin, en tout cas, c'était un moment assez rare dans une primaire démocrate.
Democracy is under attack here and abroad. We need Joe Biden.
Et puis parmi les soutiens juste avant le Super Tuesday, Raphaël, il y a aussi c'est le Texan Beto O'Rourke dont on avait beaucoup parlé au début de la campagne, qui était vraiment un espoir du Parti démocrate, qui a quitté la course très vite, mais qui lui aussi s'est rallié à Biden. On a l'impression quand même que tous les modérés, les centristes du parti se mettent derrière l'ancien vice-président.
Et ce qui fait en sorte aussi que pour les électeurs, Joe Biden était en quelque sorte devenu le choix de raison si on est un électeur associé à l'aile centriste, qu'on n'est pas nécessairement intéressé par Bernie Sanders. D'ailleurs, moi, mardi matin, je suis allé à Alexandria, en Virginie, donc tout près de Washington, et les électeurs que j'ai rencontrés n'avaient pas beaucoup d'engouement à l'endroit de Joe Biden, mais quand même, ils ont choisi de l'appuyer. Entre autres, cette électrice Grace qui est venue et portait, imaginez, son T-shirt de Pete Buttigieg. Elle le portait fièrement, mais quand même, elle a voté pour Joe Biden. Alors, de toute façon, dit-elle, elle aurait voté pour Joe Biden. Ça a rendu ce choix-là plus facile, plus rapide peut-être.
Biden, le choix de la raison, le choix de la sécurité pour les électeurs. Biden, en tout cas, se montrait assez confiant hein, le jour du Super Tuesday. Grégory, toi, tu l'as rencontré en Californie.
Oui, j'ai petit déjeuné avec lui, en quelque sorte, mardi matin, juste avant les votes. Non, Joe Biden a fait un stop éclair à Oakland, dans la banlieue de San Francisco. Il s'est rendu dans un diner, vous savez, ces restaurants américains vraiment typiques. Il y a passé une heure à serrer des mains, à prendre des cafés avec les gens. Et j'étais là, pour tout vous dire, il m'a dit trois mots. Il m'a dit I feel great, je le sens bien, etc. Et puis il y avait quelques supporters, c'était assez intime comme rendez-vous. Parmi eux, il y avait Rob qui ce jour-là portait une magnifique veste bleue étoilée, un peu comme le drapeau américain.
This is what Hillary Clinton did in 2008. She got behind Barack Obama and united the party. You see him talking to people. That's what Joe is. That's the Joe that I know. We know Joe. Joe knows us. And Bernie, he's not a uniter, he's a divider.
Et Rob dit, c'est un peu ce qu'Hillary Clinton avait fait en 2008, se mettre derrière Barack Obama pour unifier le parti. On connaît Joe, on l'aime, il nous connaît. Puis juste après, Rob ajoute, Joe est un rassembleur alors que Bernie Sanders est un diviseur.
Et à l'heure du rassemblement de l'union du parti, on n'a pas entendu Barack Obama pour l'instant. Hein. Il n'a pas encore soutenu son ancien vice-président.
Oui, et ce que disent des proches de Barack Obama, c'est que l'ancien président ne devrait pas se prononcer jusqu'à l'investiture. Il ne veut pas soutenir tel ou tel candidat pour ne pas sembler diviser le parti. En fait, il veut vraiment prôner l'unité du Parti démocrate. Et donc, Barack Obama devrait rester silencieux jusqu'à ce qu'il y ait un nominé pour le Parti démocrate.
Est-ce que vous savez comment on appelle ça au Québec, un ancien dirigeant qui décide de se prononcer sur ce qui se passe dans son parti actuellement?
Non.
On appelle ça une belle-mère. Alors, Barack Obama ne veut pas jouer à la belle-mère, clairement, avec le Parti démocrate.
Oui, enfin, ça n'empêche pas Biden de faire constamment référence à ses liens avec Barack Obama et surtout avec cet héritage qu'il partage avec Barack Obama.
Oui. Et Joe Biden qui a effectivement parlé des Obama-Biden démocrates lors de son discours au soir du Super Tuesday. Joe Biden, donc le grand gagnant de ce super mardi, le nouveau favori, mais Bernie Sanders n'est pas hors course pour autant. Il a remporté le Vermont, le Colorado, l'Utah. Il devrait normalement remporter l'État le plus courtisé, la Californie. Raphaël, toi, tu as croisé Bernie, c'était en Virginie, un État qui a aussi voté lors du Super Tuesday.
Un État qui a finalement appuyé Joe Biden, mais c'est pas que les partisans de Bernie Sanders n'ont pas mis d'efforts sur le terrain. Moi, je suis allé à Richmond, la capitale, assister à un rassemblement de Bernie Sanders. On peut dire que ses partisans sont très mobilisés. On voyait beaucoup de jeunes électeurs sur place. Finalement, il y a moins de jeunes qui ont voté que lors des dernières élections en Virginie. et on voyait aussi sur le terrain que l'équipe Sanders voulait mobiliser l'électorat hispanophone avant que le sénateur du Vermont prenne la parole. Il y a même eu un discours adressé en partie en espagnol où on tentait de mobiliser les électeurs hispanophones qui étaient présents en grand nombre sur place, même si Richmond, c'est pas une ville où il y a une énorme communauté hispanophone.
Mais le problème de Bernie Sanders, c'est que les hispanophones, ça ne suffit pas. Hein. Parmi l'électorat démocrate, la communauté afro-américaine a un poids très important et il n'a pas réussi à toucher les Noirs. Moi, dans les 3 ou 4 meetings de Bernie Sanders où je suis allée dans différents États, et notamment dans le sud des États-Unis, ben, il y avait toujours très très peu de gens issus de cette communauté afro-américaine.
Oui, j'étais à un meeting de Bernie Sanders à Springfield, en Virginie. En effet, il y avait très peu d'Afro-Américains et il y avait beaucoup de partisans latinos. J'ai notamment rencontré un groupe qui venait de New York pour faire campagne pour Sanders en Virginie. Et une jeune femme m'a expliqué pourquoi elle soutenait notamment le candidat socialiste.
When Bernie Sanders crosses the border into Canada with people who need to buy medicine and says, see, it is possible in an industrialized nation to have medicine that doesn't break people's bank, that doesn't throw people into bankruptcy.
Alors on l'entend, elle parle de Sanders qui est allé au Canada avec des gens qui avaient besoin d'acheter des médicaments, qui montrait qu'on ne devait pas choisir entre acheter des médicaments ou payer son loyer. Donc beaucoup de jeunes, notamment hispaniques, sont intéressés par cette proposition de Bernie Sanders d'avoir une assurance santé universelle.
Et pourtant, la grosse surprise peut-être de ce Super Tuesday, c'est le Texas, hein, le Texas avec énormément de latinos, c'est Biden qui l'emporte.
Oui, bah ça c'est sans doute dû notamment à l'effet Beto O'Rourke, hein, on en parlait tout à l'heure, ce jeune élu très populaire dans son état, et cette image qu'évoquait Sonia là, avec Amy Klobuchar, Pete Buttigieg, ce meeting qui a eu lieu à Dallas au Texas à la veille du Super Tuesday, ça a créé une dynamique, et la dynamique dans une élection américaine, on le sait, bah, c'est ce qui compte le plus. Joe Biden, il a moins de militants, il a moins d'argent que Bernie Sanders, mais il a quand même gagné le Texas.
Donc si on schématise, Joe Biden, il a derrière lui le vote des Afro-Américains, Bernie Sanders, le vote des Latinos. Bernie Sanders qui devrait d'ailleurs remporter la Californie, hein, on le disait, il y a aussi un vote latino en Californie. Mais toi Grégory, tu es allé dans la très capitaliste Silicon Valley et là étonnamment le sénateur socialiste a des soutiens.
Ouais, ça m'intéressait de voir comment votaient les gens qui travaillent dans la tech, comme on dit à Palo Alto ou à Cupertino. Et ce qui est intéressant, c'est que à Sanders, par exemple, effraie les GAFA, ces géants du numérique, parce que menaces de démantèlement, de régulation, etc. Mais pas forcément les employés de ce secteur. C'est ce que m'a expliqué Jason McDaniel, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de San Francisco.
Their employees don't feel the same way. These people are young, they're highly educated usually, and they care about issues like immigration and climate change and, you know, equal rights and civil rights for people. Many of them supporting Bernie Sanders, and they are turned off massively by Donald Trump.
Et ce professeur explique que, en fait, les employés de la tech sont souvent jeunes, des trentenaires, très éduqués, très intéressés par les questions notamment d'écologie, d'environnement. Et donc, contrairement aux patrons d'Amazon, Facebook ou Apple, ils sont plutôt très pro-Bernie Sanders.
C'est vrai que c'est assez intéressant, hein, ce décalage entre les géants du web et leurs employés qui sont plutôt Bernie Sanders. Plus on avance dans cette campagne, plus on a l'impression quand même que ça devient tous contre Bernie Sanders, non ?
Oui, d'ailleurs, au rallye de campagne du candidat socialiste en Virginie, un homme d'une soixantaine d'années m'a dit qu'il avait déjà le sentiment que le Parti démocrate favorisait la candidature de Joe Biden. Il y a 4 ans, les partisans de Bernie Sanders avaient eu l'impression que le parti avait favorisé la candidature d'Hillary Clinton. Donc il y a énormément de frustration. Et d'ailleurs, de nombreux partisans de Sanders disent que si ce n'est pas lui le nominé, eh bien ils n'iront tout simplement pas voter.
Et c'est aussi le refrain de Donald Trump. Hein. Dans un meeting où j'étais en Caroline du Sud la semaine dernière, il a appelé ses partisans à aller voter pour Bernie Sanders parce qu'il pense qu'il est plus facile à battre que Joe Biden. Et depuis, il dénonce un complot de l'establishment du Parti démocrate contre le sénateur du Vermont.
Côte Est, côte ouest, on enregistre ce 10e épisode entre Washington DC et Grégory.
San Francisco, la baie est devant nous et je viens de voir passer un lion de mer.
Oh.
Dans la petite crique.
Non, c'est un nageur, Grégory. C'est un nageur qui fait le crawl. Le duel Biden-Sanders. On peut parler de duel, hein, car les autres sont vraiment à la traîne. Entrée de campagne totalement ratée pour Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York, qui vient d'abandonner, Raphaël. In a statement, Bloomberg says
he's backing Biden. Michael Bloomberg avait investi, imaginez, $500 millions en publicité pour ce premier test électoral. Pour lui, le super mardi, ça n'a pas très bien été pour l'ancien maire de New York. Il a gagné un seul territoire. Est-ce que vous savez où est-ce qu'il est sorti gagnant, M. Bloomberg?
Les îles Samoa américaines,
au milieu de l'océan Pacifique. Ça fait quand même très cher la victoire. Sans surprise, donc, il a décidé de quitter la course. Il faut dire qu'il n'avait pas connu non plus de bons débats. Il se range derrière Joe Biden. Le camp Biden voudra certainement profiter du trésor de guerre de Michael Bloomberg qui se finançait à même sa propre fortune personnelle qui est estimée à $60 milliards.
Et d'ailleurs, vous savez que dans tous les meetings, il y a beaucoup de goodies, de gadgets politiques. Et une particularité chez Bloomberg, c'est que ses t-shirts, ses sweatshirts, tout était gratuit. Et au quartier général d'Oakland, qui est de l'autre côté de la baie de San Francisco, où je suis allé l'autre jour, il y avait même un camion de tacos dans la rue qui distribuait des tacos gratuitement, mais à qui on voulait. C'était pas uniquement pour les bénévoles ou les volontaires, un peu comme si avec ces tacos, le milliardaire new-yorkais essayait d'acheter les votes ou de séduire en tout cas les éventuels électeurs. Ça n'a pas vraiment fonctionné.
Alors pour mes collègues en Caroline du Nord, à Charlotte, au menu, c'était du poulet jamaïcain qu'offrait l'équipe de Michael Bloomberg aux gens qui voulaient bien en manger.
Et à San Francisco, c'était des donuts et du café. J'ai eu un peu moins de chance. Quoique, j'ai pas mangé de donuts, hein, je précise.
On espère bien.
Règle déontologique.
On te croit sur parole.
On évoque l'argent de Bloomberg. Pour parler d'argent, il faut peut-être aussi parler du milliardaire Tom Steyer, Anne. Échec pour lui aussi.
Oui, alors Tom Steyer, il avait dépensé beaucoup moins, hein, seulement $260 millions. Il avait tout misé sur la Caroline du Sud, en tout cas beaucoup misé sur la Caroline du Sud, où il avait dépensé 4 fois plus que l'ensemble de tous ses rivaux. Et il a échoué là aussi. Moi, j'étais allée à une de ses réunions électorales. Il offrait aussi un buffet aux participants. C'était du poulet frit, comme il se doit dans le sud des États-Unis. Mais ce que je veux dire, c'est que l'échec de Bloomberg et de Steyer, eh ben, semble montrer que malgré le poids énorme de l'argent dans la campagne, ben, l'Amérique n'est pas encore une plutocratie.
Tom Steyer, qui ne passera donc pas à l'histoire pour sa performance en Caroline du Sud, mais peut-être pour cette vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu, de Tom Steyer avant le vote de Caroline du Sud qui danse d'une drôle de manière sur de la musique rap en Caroline du Sud. En tout cas, ça fait fureur sur les réseaux sociaux.
Et c'était pour essayer de ravir le vote afro-américain à Joe Biden avec cette inénarrable cravate rouge écossaise qu'il a portée pendant toute la campagne.
Sur de la musique gangsta rap, c'est vrai que c'était assez étonnant. Abandon donc de Bloomberg, échec également pour Elizabeth Warren, la sénatrice du Massachusetts. Elle finit même troisième sur ses terres. Sa campagne s'est peut-être arrêtée lors du Super Tuesday. Sonia, peut-être un mot sur Warren?
Oui, Elizabeth Warren qui a eu un momentum, un moment dans cette élection, qui était en tête de plusieurs sondages, qui s'est très bien débrouillée dans plusieurs débats. Mais finalement, eh bien, sa campagne a fait flop dernièrement. Alors, elle apparaît pour beaucoup de démocrates un peu plus modéré que Bernie Sanders, et peut-être finalement qu'elle n'a pas su trouver sa voie, qu'elle était un peu entre Joe Biden et Bernie Sanders.
Et il y aura peut-être des négociations de coalition en quelque sorte, mais c'est pas dit que parce qu'un candidat abandonne et appuie un autre candidat, ses partisans vont nécessairement se rallier. Quand on regarde les deuxièmes choix, par exemple, de Amy Klobuchar ou Pete Buttigieg, ça va dans toutes sortes de directions. Certains voulaient appuyer Biden, Warren, d'autres Sanders ou Bloomberg, et ça se voit donc pour la plupart des candidats. Donc c'est pas acquis. En même temps, quand on se dirige vers un duel, une course à deux, les partisans démocrates ont beaucoup moins de choix devant eux, et ça facilite peut-être ces coalitions ou ces mouvements d'électeurs, que ce soit au centre ou à gauche.
Et puis Raphaël, ben, faut noter qu'on se dirige vers un duel entre deux hommes blancs de plus de 77 ans. Exit les minorités et sans doute peut-être exit la candidate principale dans les prochains jours ou prochaines heures.
Et qui vont affronter en novembre un autre homme de plus de 70 ans, Donald Trump.
Un mot peut-être aussi sur le compteur du nombre de délégués. C'est ça qui compte hein, au fond dans cette course à la Maison Blanche. La répartition est en cours, mais ce qu'on peut dire peut-être, c'est que personne ne se détache vraiment au lendemain du Super Tuesday.
Oui, enfin de toute façon, le Super Tuesday ne compte que pour un gros tiers des délégués.
On se dirige vers une convention contestée en juillet.
Ouh là là, bah attends Raphaël, on a plein de primaires encore, hein, faut pas oublier qu'on va voter dans le Michigan le 10 mars, Floride, en Floride le 17, enfin ça va s'égrener jusqu'au mois de juin, hein, on a le temps.
Et la course est encore longue, Biden prend souvent l'image d'un marathon, un marathon avec donc des concurrents qui ont tous plus de 70 ans, 70 ans, hein, tu le disais Grégory. Lors de ce Super Tuesday, 14 États américains votaient, mais il y avait aussi, on en a parlé, les îles Samoa américaines, reportées par Mike Bloomberg, hein, c'est juste. Et il y avait aussi les Américains de l'étranger qui s'exprimaient. Alors qu'est-ce qu'ils ont voté, les Américains, dans vos pays respectifs, Grégory, en France?
Alors en France, on n'a pas encore les résultats, c'est plus petit que la Californie, mais ça tarde un peu à venir. On a juste une information, c'est que les Américains de France se sont pas mal mobilisés, puisque la participation a doublé par rapport à 2016. En 2016, il y a 4 ans, il y avait 150 Américains de France qui avaient voté. Là, ils étaient un peu plus de 300.
Belgique, Canada, vous avez des résultats?
Au Canada, on n'a pas encore les résultats de cette année, mais je peux vous dire que la dernière fois, en 2016, les Américains qui vivent chez nous avaient largement appuyé Bernie Sanders sur Hillary Clinton. C'est peut-être l'attrait pour un système de santé universel. Hein?
Oui, c'est vrai que Bernie Sanders, il parle toujours du Canada avec des accents très aimables.
Et toujours pas de résultats en Belgique.
Et toi, Raphaël, les Suisses, enfin les Américains de Suisse, ils ont voté comment?
Alors, en Suisse, élection partielle, mais on me dit que Sanders, Warren sont devant, Biden juste derrière et Bloomberg, alors lui, il est loin derrière. Bon, il n'a pas fait beaucoup de pub non plus sur la radio-télévision suisse, ça doit sans doute expliquer ce mauvais résultat. États-Unis, côte ouest, c'était une première pour ce 10e épisode. Nous étions entre Washington et San Francisco. Avant de se dire au revoir, on parle beaucoup hein, de la Maison Blanche dans ce balado. Toi, Grégory, tu dois quand même nous en dire deux mots. Tu es allé voir à San Francisco une maison bleue.
Oui, entre deux reportages Super Tuesday, j'ai quand même trouvé une heure pour aller voir cette fameuse maison bleue de San Francisco qui est vraiment chère au cœur des Français, en tout cas à ceux de ma génération. C'est la chanson de Maxime Le Forestier.
Évidemment, ouais.
Pourquoi je suis allé la voir? Parce que il se trouve que le week-end dernier, elle a été mise en vente, cette fameuse maison bleue, le prix 3 500 000 dollars. Et Jessica, l'agent immobilier, me l'a fait visiter.
It's 3 levels. 5 bedrooms, 3.5 baths.
Jessica, je vais vous faire écouter quelque chose.
C'est une maison bleue. The maison bleue, the blue house. Something about a key. and not much more, no.
Et franchement, Raphaël, elle est assez sublime, cette maison, sur plusieurs niveaux. Elle est effectivement...
3,5 millions, hein, quand même.
3 millions et demi. Je me disais que pour Washington DC, ça pourrait éventuellement être un studio sur la côte ouest. On pourrait l'acquérir tous ensemble et recréer une communauté comme c'était le cas dans les années 60 ou 70.
Et évidemment, Anne, tu as le morceau dans ta collection de vinyles.
Non, mais je suis sûre que Grégory, c'est la jouer à la guitare. J'ai hâte de l'entendre. Et puis quand même, je vais vous dire que le titre a été repris en 99 par Maxime Le Forestier avec le chanteur kabyle Idir, et dans cette version chantée en partie en kabyle, et bien San Francisco est remplacé par Tizi Ouzou.
Voilà, cette version tu l'as sans doute en MP3, c'est ça. Donc Maxime Le Forestier, super connu aussi en Suisse, évidemment au Canada. Raphaël, vous connaissiez la chanson?
Je ne parlerai pas pour l'ensemble de mes concitoyens, personnellement je ne connais pas trop.
Là, il est très connu en Belgique.
Washington DC. Voilà, on vous dit à tout bientôt, dans deux semaines, pour la suite de cette campagne qui, il faut quand même le dire, hein, continue de nous surprendre. Des primaires passionnantes, une course à la Maison Blanche qui se resserre, qui s'accélère. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Washington DC. Il y en a donc 10 sur les plateformes des radios francophones publiques. On va dire les noms, France Info, RFI, la RTBF, Radio-Canada, la RTS. On est aussi sur Apple Podcast et Twitter, une petite communauté qui grandit. On a combien d'abonnés, Grégory?
Allez, il y a 4000 personnes qui nous suivent sur Twitter.
Quand même.
Mais allez jeter un œil. On met des photos, des coulisses de nos reportages. Et puis, je vous mettrai une petite vidéo de la baie de San Francisco qui est vraiment sublime aujourd'hui.
Ouais, j'espère qu'on verra le lion de mer, hein, Grégory.
J'essaie de le filmer.
Voilà, avec des bruits de vagues depuis San Francisco, on vous dit au revoir.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
tu sais, Raphaël, cette maison bleue qui est sublime, pour y aller, en fait, on y vient à pied, on frappe pas parce que la porte était ouverte, c'était une visite immobilière.
Il paraît que les gens ont jeté la clé.
Voilà, exactement. Ouais, ouais. Et ceux qui vivent là ont jeté la clé.
Washington DC avec
Anne Corpet, RFI,
Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada,
Sonia Dridi, RTBF,
Grégory Phillips, France Info,
Raphaël Grand, Radio-Télévision Suisse.
Réalisé par
Sandro Lichy.